Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bonjour et bienvenue dans la chronique Osons l'intime sur Radio Royan Vercors. Ce matin, on est avec Stéphanie pour parler de...
violence sexuelle faite aux enfants. Merci Claire pour ta présence à mes côtés pour cette chronique. Alors aujourd'hui, oui, on va parler d'un sujet difficile mais essentiel, les violences sexuelles faites aux enfants. C'est une chronique que je souhaitais faire depuis longtemps et puis en tant que maman aussi et femme engagée auprès de la protection des enfants. Et malheureusement, l'actualité rend ce sujet encore plus brûlant et il me semble que du coup, il est peut être très utile de faire cette chronique en ce moment. Alors cette chronique, elle est en deux épisodes. Le premier épisode, je vais vous partager une partie de mon chemin de maman face à l'angoisse, à l'impuissance, à cette peur pour mes enfants et pour les enfants de mon entourage. Et dans un deuxième temps, la semaine prochaine, je vous proposerai des repères concrets pour protéger et accompagner les enfants. Alors, n'hésitez pas à titrer ces chroniques, donc ça veut dire écouter en plusieurs parties, fractionner, vous autoriser à baisser le son ou faire autre chose en écoutant juste parce que vous avez besoin de prendre un peu de distance, c'est normal. Observez-vous si vous devenez cotonneux, vous êtes un peu absent, absente ou même vous avez de l'agacement, de la colère qui arrive, c'est que vous avez sans doute dépassé votre capacité de votre fenêtre de tolérance, hein, tout simplement en écoutant tout ça, et c'est bien normal, donc allez-y vraiment tranquillement. Alors, comme j'aime le faire d'habitude, je vais vous proposer qu'on soit accompagné aujourd'hui par des ressources du vivant pour nous soutenir dans ces chroniques. Et la première ressource, ça va être le lien, la toile. Les violences, c'est quelque chose qui isole et qui amène beaucoup d'impuissance, surtout celles faites aux enfants. Et donc vraiment l'antidote à ça, ça va être le maillage humain qu'on peut faire ensemble pour être solidaire, cohérent, vigilant, protecteur ensemble. Et je vous invite à visualiser, à imaginer, à ressentir que vous n'êtes pas seul, mais qu'au contraire, il y a plusieurs lumières, plusieurs personnes autour de vous, même si vous ne les connaissez pas encore, qui sont là et qu'il y a des fils entre nous. Et qu'entre nous, il y a une forme de cohérence, une solidité d'être ensemble. Et ensemble, on est du coup plus fort, plus vigilant, plus intelligent. On a le cœur plus gros aussi pour accueillir, le cœur plus grand pour accueillir ce qui est là. Et puis, la deuxième ressource du vivant, c'est le mouvement. Tout ce qui est traumatique va beaucoup nous figer, va nous stopper dans notre élan vital, dans notre élan aussi à agir. Et donc, le mouvement, ça va être une grande ressource. Et je nous invite vraiment à nous relier à ce mouvement à l'intérieur de nous, qui parfois est peut-être lent, plus rapide, mais qui est toujours là tant qu'on est vivant. Ce mouvement aussi de la nature, des saisons, ce mouvement qu'on trouve dans l'eau, dans le vent, tout ce qui peut vous ramener à ce mouvement à l'intérieur et dans votre vie va être soutenant. Alors, je vais entrer un petit peu plus dans mon histoire sans entrer dans les détails personnels. J'ai moi-même été confrontée à la réalité des violences sexuelles faites aux enfants fin 2017. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et à ce moment-là, dans le contexte du mouvement MeToo, un secret familial a été levé. Et en une fraction de seconde, beaucoup de choses ont pris sens pour moi. Mon hypervigilance, certains cauchemars, des réactions émotionnelles très fortes, parfois incompréhensibles. Des éléments très proches de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique. Et paradoxalement, j'ai aussi vécu un grand soulagement à ce moment-là. Parce que ce qui avant était une menace diffuse, incompréhensible pour moi, indéfinissable dans ma vie, a pris une forme. Je suis passée d'un danger indéfini, le danger vient de là. Et ça, c'était déjà pour moi une forme d'apaisement. Mais très vite, cet apaisement s'est transformé et ce danger qui venait de là a commencé à prendre toute la place. J'ai commencé à vivre beaucoup d'anxiété pour mon puis mes enfants, voir des agresseurs potentiels partout. Beaucoup de mes choix étaient faits à partir de cette peur, mettre mes enfants à la crèche plutôt que chez la nounou. Je scrutais les réactions de mon beau-père, de mon père, de mon conjoint avec les enfants pour tenter d'évaluer les risques. Je me rendais malade parce que j'étais face à mon impuissance à tout contrôler avec un enjeu énorme. D'autant que nous vivons toujours sur un lieu d'accueil du public. Mon conjoint a un gîte auberge. Et donc, vraiment, ce côté incontrôlable était présent, vraiment très présent dans notre vie de famille. C'était très dur parce que mon conjoint à la fois compatissait, mais trouvait mes réactions très disproportionnées et était assez démuni. Alors, je suis arrivée à un point où j'ai compris que je pouvais pas continuer à vivre avec ce niveau d'activation. J'allais m'épuiser et rendre la vie impossible à la fois à mes enfants et à toute ma famille, en fait. Alors, ça a été dur de sortir de cette hypervigilance. Pour moi, c'est passé par retrouver de la capacité à être avec cet aléa, ce risque. Sans être submergée ou sans être trop submergée, sans que ça prenne toute ma place. Et ça m'a permis de redevenir actrice sans faire feu de tout bois, avoir un niveau de vigilance plus ajusté pour moi. Oui, je suis vigilante pour mes enfants, pour ceux autour de moi, mais c'est plus épuisant ni submergent. Cela m'a permis, avec le temps aussi, d'être engagée localement pour la protection des enfants et de pouvoir accompagner mes enfants sur ces sujets sans être dépassée émotionnellement. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est décrypter un petit peu ce qui m'est arrivé, parce que je sais que beaucoup de parents vivent quelque chose de similaire en ce moment face aux violences qui ont été révélées. Et c'est important parce qu'on sait aujourd'hui que le trauma est dans les traces que l'événement laisse dans le système nerveux. Et un des facteurs prédicteurs de résilience, c'est un attachement sécure. C'est de trouver le soutien nécessaire à intégrer ce qui a été vécu de difficile. Donc, en tant que parent, être moins submergé face aux violences et pouvoir être présent et acteur avec nos ressources pour nos enfants et les enfants en général, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour les protéger d'un potentiel danger ou d'un potentiel trauma. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire que le trauma, en fait, il est collectif. C'est pas juste votre ou mon histoire personnelle. Ce que j'ai vécu n'est pas seulement lié à mon histoire, effectivement, c'est aussi ce qu'on appelle le trauma collectif. Un secret a été levé avec du courage, des ressources, parce qu'il y a un mouvement collectif qui s'est mis en place en 2017. On comprend aujourd'hui que ce que nous voyons dans les médias, le contexte de libération de la parole et de demande de protection pour les enfants, mais aussi toutes les réponses institutionnelles qui sont apportées, impactent potentiellement chaque personne dans son histoire personnelle. Ça, c'est de nature à changer la donne, soit de faire peser la balance du côté des ressources, soit du côté du danger. En fait, sans qu'on s'en rende compte, tous nos systèmes nerveux sont à l'écoute à chaque instant de ce qui se passe, y compris dans la société. Pour évaluer finalement le niveau de risque de parler, le niveau de risque d'agir. Le chercheur psychiatre Bessel van de Kolk et le sociologue Kai Erikson ont montré que le trauma peut dépasser l'individu et toucher tout un groupe, une société. Quand un grand nombre de personnes sont exposées à une menace ou la révélation d'une violence massive, cela impacte nos systèmes nerveux à tous. Nous ne sommes pas des systèmes nerveux isolés. Le biologiste Stephen Porges, avec la théorie polyvagale, explique que nos systèmes nerveux sont en permanence en train de capter les signaux de sécurité et de danger aussi dans les systèmes nerveux des gens de notre entourage, aussi dans les systèmes nerveux des personnes qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio. Autrement dit, quand le collectif est en alerte, nous le sommes forcément aussi. Et c'est pour ça que les histoires de violence sont aussi personnelles, mais sont aussi politiques et collectives. Elles nous concernent à un certain niveau tous, elles nous impactent tous. Et dans le cas des violences sexuelles faites aux enfants, il y a quelque chose de particulier. Pendant longtemps, ces violences ont été entourées de silence, de tabous, ce que le psychiatre Judith Herrmann appelle une amnésie traumatique collective. Et aujourd'hui, avec les vagues de témoignages, on assiste en fait à une forme de réveil. Et ce réveil est aussi déstabilisant, y compris pour chaque étage de notre société. Alors, on va aller un petit peu plus en détail dans cette forme de déstabilisation qu'on peut vivre. Et c'est très lié finalement à la dissociation. La dissociation, elle peut se manifester sous deux formes, avec deux réactions qui paraissent au départ complètement opposées, mais qui sont en fait très liées. Face à ce phénomène, notre système nerveux peut réagir de différentes manières, c'est-à-dire la révélation d'un danger, la présence d'une menace. Souvent, de manière extrême, on parle de dissociation traumatique, en fait. C'est un mécanisme très bien documenté maintenant, d'abord par Pierre Janet, puis par d'autres comme Muriel Salmona. Concrètement, quand un événement est trop intense, le cerveau ne peut pas l'intégrer correctement. Le souvenir devient hors du temps. C'est notre hippocampe qui est complètement dépassé en fait par cet événement et donc on va ni pouvoir dater ni donner le contexte de cet événement. Il n'est pas vécu comme un souvenir, mais comme quelque chose qui est encore en train de se passer. Et en même temps, un phénomène dissociatif permet d'atténuer, voire de couper ce souvenir dans notre conscience. Tant que l'événement traumatique n'est pas intégré dans son contexte et que la personne ne peut pas compléter ses réponses de survie face à ce danger, cela peut donner deux types de réactions. Alors, pour un parent qui a connaissance de violence, cela peut constituer aussi un trauma en soi et il peut être submergé par la peur et l'impuissance en même temps. Il va potentiellement donc avoir ces deux modes de réaction. Le premier mode, c'est une vigilance chaotique et submergée. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Le danger est partout, on surveille tout, on s'épuise. Et puis la deuxième manière de réagir, c'est l'évitement. On ne veut pas voir, on se coupe de l'information, mais non, c'est pas possible, on minimise. Malheureusement, il y a certains parents et qui vont aussi beaucoup culpabiliser après, hein, qui témoignent de ça. En fait, j'ai pas cru mon enfant. Il y a cette forme de sidération derrière ça. Il y a ce système d'évitement derrière ça pour se protéger quelque part de cette réalité. Ces deux réactions peuvent sembler opposées, mais elles viennent du même endroit. La difficulté à intégrer la réalité du trauma. Donc si vous vous reconnaissez, je vous invite à vous faire aider pour sortir de cette forme d'impuissance qui est derrière cette hypo ou cette hyperactivation. Alors pourquoi ça nous impacte autant comme parents? Ce qui va énormément influencer, c'est notre propre histoire. Si nous avons nous-mêmes vécu des traumas, des violences sexuelles, ou grandi dans un environnement où les limites n'étaient pas claires, où le corps et l'intimité étaient tabous, si nous avons grandi dans la négligence, un attachement insécure, il est possible que nous ayons développé un sentiment d'impuissance qui s'est installé de fond. Alors le sujet devient encore plus chargé. Le trauma non intégré peut devenir un obstacle pour accompagner nos enfants. Des réactions émotionnelles ingérables, de l'évitement, de la rigidité, des difficultés à accompagner donc notre enfant. C'est là un point essentiel. On peut vouloir protéger son enfant, mais être complètement débordé et ça devient complètement impossible. Alors le risque, c'est soit de s'épuiser, soit de passer à côté. Et dans tous les cas, notre capacité d'action est vraiment réduite. Alors, le problème, il n'est pas que autour des parents, malheureusement, mais il est vraiment systémique. Chaque maillon de la société va être impacté par ce phénomène. Les enseignants, les professionnels de santé, les institutions, la justice, tous, nous pouvons être, à notre manière, en difficulté face à ces réalités. Tous, on peut vivre un trauma qui est réactivé. C'est aussi pour cela qu'il y a des dysfonctionnements structurels au niveau social, sociétal, qui existent, parce que le trauma est encore largement trop non intégré collectivement. Alors l'enjeu fondamental pour protéger nos enfants ne passe pas uniquement par des informations ou des outils, même s'ils sont importants, hein, mais par la capacité des adultes globalement à sortir de leur propre dissociation traumatique et tabou pour être pleinement présents auprès des enfants et incarner un cadre sécur. Alors, une première piste pour avancer, la dissociation se nourrit d'isolement, d'impuissance, de manque de soutien, de trop émotionnel. Donc, à l'inverse, ce qui va aider, c'est de créer du lien. C'est être écouté. C'est retrouver de la sécurité dans les relations. C'est exactement ce que j'ai dû faire, moi, de mon côté. j'ai compris à un moment que j'allais pas y arriver toute seule dans mon salon et que j'allais devoir traverser ma honte, ma culpabilité, ma difficulté à parler aussi de mon histoire pour aller me faire aider, parce que sinon j'allais pas être très efficace pour soutenir mes enfants. Et dans le prochain épisode, je vous proposerai des outils, cette fois plus concrets, pour accompagner vos enfants et les enfants autour de vous, pour les protéger des violences sexuelles et les accompagner si malheureusement ils sont victimes. Voilà, merci.
Merci beaucoup Stéphanie, c'était un épisode très intéressant et je pense d'extrême nécessité, surtout effectivement par les temps qui courent. Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.